Ça change, hein, ça fait bizarre quand c'est le même qui fait tout. Hein. On n'est plus habitué. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. On a parlé de, dans le texte que j'ai lu au début, j'en ai profité puisque c'est moi qui faisais tout, on a parlé de ce moment où les gens montaient à Jérusalem. Il faudrait éteindre si c'est possible. Pour rencontrer Dieu, quand on a parlé de l'offrande, j'ai parlé de cette grande offrande pour bâtir le sanctuaire. Et est-ce qu'on peut peut-être éteindre le reste, voir ? Non, c'est là. Ah, peut-être celui-là, ouais. On va voir. Est-ce qu'il fait assez clair? Vous voyez suffisamment ou on rallume autre chose? C'est bon? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le désir ardent de Dieu, c'est sa présence au milieu de nous. Et je crois que c'est quelque chose de très important en tant qu'Église de valoriser la présence de Dieu au milieu de nous. C'est vraiment important de chérir la présence de Dieu au milieu de nous. Dans le livre de l'Exode, si vous avez votre Bible, on va lire un court passage. J'ai été amené à réfléchir sur la présence de Dieu au milieu de l'Église, à penser à ce que ça veut dire la présence de Dieu au milieu de l'Église. Et donc je suis revenu au cœur, c'est-à-dire à la parole, et notamment au livre de l'Exode, qui dans un nombre important de chapitres, il y a une grosse partie du livre de l'Exode qui est consacrée au tabernacle, au lieu de la présence de Dieu, au milieu du peuple, puisque c'est les chapitres 25 à 40 qui décrivent ça. Donc, vous voyez le nombre de chapitres importants, j'ai tout relu, et c'était vraiment passionnant. C'est d'une richesse incroyable. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Sur cette première diapo qu'on reverra, c'est l'arche de l'Alliance. C'est cette arche qui était dans un lieu particulier et qui était dépositaire de la présence de Dieu. Donc on lit dans Exode 25, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier. » Des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc vous voyez, ça c'est le moment où Dieu parle à Moïse et lui dit « Vous allez faire ça ». Tout à l'heure, on a lu le moment de l'offrande, le moment où Moïse appelle à l'offrande et où tout le monde se met en foule à apporter de bon cœur pour la maison de Dieu, pour le tabernacle. Le tabernacle, on va le voir, c'est une tente. C'était juste une tente. Dieu, dans sa grandeur, dans son immensité, a choisi d'habiter au milieu du peuple humblement dans une tente. L'humilité fait partie des attributs de Dieu. Pourtant, la gloire aussi. Et ça, c'est incroyable. Dieu présent au milieu des siens. C'est ça son désir. Quelle est la raison d'être du tabernacle en Israël, pour Israël, puisque ce n'est pas encore en Israël à l'époque, c'est pour Israël qui est dans le désert, c'est « j'habiterai » au milieu d'eux. C'est vraiment le cœur de Dieu depuis la chute d'habiter avec les hommes. Dieu n'a pas créé la terre et le ciel et les êtres humains pour être éloigné d'eux, mais pour être tout proche d'eux, pour vivre avec eux, pour demeurer au milieu d'eux. On le voit par exemple avec les premiers humains dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, 8, il nous est dit, ils viennent de pécher, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu parcourt le jardin, il est là au milieu. Et l'homme et sa femme qui ont péché se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu était là au milieu. On le voit bien plus tard, quand le peuple d'Israël est né, les enfants d'Abraham, qu'ils sont exilés en Égypte, qu'ils souffrent la misère, l'esclavage, puis ensuite ils sortent. Et quand ils sortent pas seuls. Ils sortent avec la présence de Dieu. Dans Exode 13, il nous est dit, l'Éternel allait devant eux quand ils quittent l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ça va durer 40 ans de pérégrination dans un désert. Il nous est dit, l'Éternel allait devant eux. Le jour, dans une colonne de nuée, sur le peuple d'Israël, il y avait une espèce de colonne comme ça, de nuages, de vapeurs, qui était là en journée, pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Dieu avait pourvu même à l'éclairage du peuple pour la nuit, afin qu'ils marchent jour et nuit. Parce qu'en fait, quand le peuple suivait Dieu dans le désert, quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait et s'installait, faisait son campement, où il y avait c'était à peu près 600 000 hommes, si je me souviens bien, donc c'est un peuple vraiment nombreux. Et puis, quand la nuée ou la colonne de feu bougeait, eh bien, on remballait armes et bagages, on démontait les tentes, etc., et on partait plus loin. Donc c'était vraiment, Dieu était là au milieu, et Dieu conduisait son peuple. Avec le tabernacle qu'on voit ici, il y a une diapo qui montre un petit peu une représentation de comment se vivait cette présence de Dieu une fois que le tabernacle a été construit. Le tabernacle, c'est la tente. Hein, et donc, on voit que toute cette enceinte était au centre. Et chaque tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël, étaient autour. Et ça ne se faisait pas n'importe comment. Dieu avait dit, vous ferez le tabernacle, vous serez au milieu, et puis vous mettrez, il y a 12 tribus d'Israël, 3 tribus de chaque côté, etc., etc. L'orientation de la tente était prévue, tout était prévu. Et quand, on lit plus loin, quand la tente a été terminée, que les sacrifices ont été faits, que tout l'ordonnancement a été fait, dans Exode 40, il nous est dit, alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La représentation montre un peu cette nuée, je ne sais pas si elle ressemblait à ça. Bon, à l'instant de l'inauguration, c'était plus important puisque ça couvrait toute la tente. Puis quand on lit dans la Bible, on voit la suite. Ça, c'était dans le désert, Dieu a habité dans une tente, mais le roi David a dit, mais il faut une maison pour Dieu. Et donc il va faire les plans et son fils, le roi Salomon, va construire un temple, une maison pour l'Éternel. Et quand ce temple construit par Salomon a été terminé, il est un petit peu sur le même modèle que le tabernacle. Dans 1 Roi 8, il nous est dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Donc à nouveau, on construit un temple et la présence de Dieu vient avec puissance. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service. La présence de Dieu est tellement forte que les gens ne tiennent plus, ils sont obligés de sortir. Ça non plus, je crois qu'on ne l'a pas encore vécu, hein ? Le moment où la toi oui. Ah, pas encore, mais ça va venir. Le moment où la présence de Dieu est telle qu'on ne tient plus. On est tous par terre, on est dehors, on est... Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et puis ça continue. Encore plus glorieusement, la présence de Dieu au milieu d'Israël, au milieu du peuple, elle vient dans un homme qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. Et dans l'Épître aux Colossiens, il nous est dit que quand Jésus était là au milieu d'Israël, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous vous souvenez, le jour du baptême de Jésus, il y avait cette colombe qui est venue. Il y avait cette présence de Dieu sur lui, comme en forme de nuée. La nuée était sur Jésus. Et puis ça continue aujourd'hui dans l'Église. Avec nous, en nous, au milieu de nous, la présence de Dieu est là. 1 Corinthiens 3 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Il faudrait prendre un ton solennel pour dire ça. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» L'Esprit de Dieu habite en vous. Waouh ! Toute cette histoire qui part de la Genèse, avec Dieu qui habitait au milieu de son peuple, elle continue et on doit la vivre pleinement, nous, aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans le club de je ne sais pas quoi d'à côté que réside la présence de Dieu. C'est dans l'Église, c'est dans l'Assemblée. Dieu est là au milieu de nous. Et donc la raison du tabernacle, c'est avant tout cette volonté de l'Éternel Dieu d'être au milieu des siens, de ceux qui lui appartiennent. Et puis le message de la Bible, parce que ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, elle ne s'arrête pas avec l'Église. La Bible se termine avec ses paroles de triomphe en Apocalypse 22, chapitre 3, verset 3. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, au milieu, et ses serviteurs le serviront. » Donc vous voyez, et donc c'est tellement un message qui traverse toute la Bible de différentes époques, etc., que c'est un message et une pensée à valoriser au milieu de nous. Quand nous nous réunissons, je le dis souvent, hein, quand nous nous réunissons, on ne se réunit pas pour parler de Dieu, mais pour que Dieu soit au milieu et pour le voir agir et le vivre, pour sentir sa présence, pour être touché par sa présence. Je crois qu'on le fait, on le vit, mais il faut le rappeler, on peut aller plus loin dans la présence de Dieu, je pense. Alors je voulais reparler un petit peu ce matin du tabernacle, parce que c'est vraiment, et je vous encourage à relire ces chapitres 25 jusqu'à 40 du livre de l'Exode, parce que ça fourmille de plein de choses, de choses très intéressantes. Donc sur la montagne, comment c'est venu cette idée du tabernacle ? Moïse, vous savez, dans le désert, Dieu l'appelle à monter sur la montagne, il y monte, et sur la montagne, Moïse est en tête à tête avec Dieu, et il reçoit quoi ? Les tables de pierre, les tables de la loi avec les 10 commandements gravés du doigt de Dieu. Il reçoit le modèle exact du tabernacle, on a lu tout à l'heure. Dieu lui dit, vous ferez comme ça. Il reçoit les instructions. Et donc, tout va être fait d'après une révélation céleste. En fait, c'est comme si Moïse montait sur la montagne et Dieu lui montrait un film ou des diapos, je ne sais pas. Et puis Dieu lui dit, regarde ce tabernacle que tu vois là-haut et tu vas faire la même chose sur la terre. Aie soin de tout faire d'après le modèle. Et donc le tabernacle est fait selon le modèle du sanctuaire céleste. Donc c'est un sanctuaire. Sanctuaire, ça veut dire le lieu de la sainteté, la maison de la sainteté ou la maison du saint, de l'Éternel. Et donc le tabernacle, ça va être pour nous aussi ce matin et pour les chrétiens, comme un enseignement sur le moyen pour l'homme pécheur, de s'approcher de Dieu. Dieu va enseigner à son peuple des lois pour lui montrer le chemin pour bien vivre. Mais Dieu, sachant que l'homme est pécheur, il va aussi lui montrer le modèle du tabernacle et du culte pour pouvoir lui enseigner le chemin pour s'approcher de la présence de Dieu et de la communion avec Dieu. Alors j'ai fait quelques diapos pour nous résumer un petit peu ce qui se passait. Alors il y a cette diapo que j'ai trouvée qui est intéressante avec la vue nocturne. Donc c'est le tabernacle by night, Israël dans le désert by night, avec cette nuée qui est en colonne de feu pour la nuit. Voilà, alors voilà un petit schéma de quoi était fait le tabernacle. Donc rapidement, il y avait toute cette clôture autour, il y avait une seule porte. Il y avait les endroits pour les sacrifices d'animaux. Et puis, il y avait cet autel, parce que quand les animaux étaient sacrifiés, après, il y a toutes sortes de sacrifices différents, mais il y avait une partie des sacrifices qui étaient brûlés. Puis, il y avait une cuve d'airain, juste derrière. C'était là où les sacrificateurs, donc les prêtres, donc là, les sacrificateurs, vous voyez, sont en blanc, et le souverain sacrificateur était en bleu et rouge. Et donc, il se lavait avant de pouvoir pénétrer dans la tente. Donc dans à l'extérieur, donc il y avait cet autel pour brûler une partie des sacrifices. Il y avait la cuve pour les ablutions. Les sacrificateurs se lavaient les mains, les bras, les pieds. Et puis il y a là un petit peu l'intérieur de la tente. Donc il y avait deux parties. Une première partie qu'on appelle le lieu saint et une deuxième partie qu'on appelle le lieu très saint ou le saint des saints en hébreu. Dans le lieu saint, la première partie de la tente, il y avait une petite table où il y avait 12 pains. C'était des 12 pains. À chaque Shabbat, on devait changer les pains. Il y en avait 12. Pour plein de raisons, mais pour montrer que c'est Dieu qui pourvoit. Et vous vous souvenez que pendant qu'ils étaient dans le désert, il y a toute cette période longue où ils sont nourris par le pain qui descend du ciel, par la manne. Et donc pendant des années et des années, ils vont manger la manne. Donc ce pain qui est un cadeau de Dieu. Et donc Israël apprend qu'il dépend de Dieu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi. Je crois que c'est Dadou ou David qui partageait. Qu'on dépend de Dieu à tous les niveaux, que tout lui appartient. Et donc les pains étaient là pour rappeler à Israël à chaque Shabbat, toutes les semaines, qu'il dépend de Dieu et que c'est Dieu qui nourrit. Dans le lieu saint, il y avait juste en face de la table des pains de proposition, il y avait le chandelier, j'en ai mis deux là, il y avait le chandelier. C'est pour ça que j'ai ressorti un petit peu le tableau là, qui figure, hein, le chandelier. Le chandelier a 7 branches, qui est la menorah, qu'on appelle la menorah. Et vous voyez le sacrificateur qui allume, ou plutôt qui entretient, puisque la lumière qui éclairait, c'était en fait ce qui éclairait le lieu saint, puisque tout était fermé, vous avez vu, par des toiles, donc c'était très sombre à l'intérieur. Mais il y avait cette fameuse lumière de la menorah qui devait brûler jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Donc le matin et le soir, les sacrificateurs entretenaient cette lumière avec une huile très spéciale. Et puis, tout près du rideau, avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait l'autel des parfums. Donc ça, c'était un autel où il n'y avait pas de sang, pas de sacrifice. C'était uniquement des parfums de bonne odeur. Donc vous voyez, les sacrificateurs, les prêtres qui entraient en tout temps dans le lieu saint, eh bien, ils étaient éclairés par la lumière. Ils avaient cette odeur, j'allais dire, de la présence de Dieu. Et puis ces pains qui rappelaient la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ça, seuls les sacrificateurs, les membres du peuple ne pouvaient pas entrer. Seuls les membres du peuple, les sacrificateurs et donc les prêtres, pouvaient entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, qui était plus petit, il y avait uniquement une fois par an le souverain sacrificateur qui pouvait entrer pour un rituel. Ça correspond à Yom Kippour cette année, hein, enfin maintenant pour les Juifs. Donc ce jour du grand pardon où vraiment le sacrificateur entrait. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche, le coffre, avec les chérubins, là, le couvercle est enlevé. Mais dans l'arche, il y avait un bâton. C'était le bâton de marche d'Aaron, le frère de Moïse, le premier grand prêtre. Et ce bâton, vous lirez dans quelles circonstances, des circonstances intéressantes, ce bâton tout sec qui pendant 40 ans avait servi à Aaron à marcher dans le désert, ce bâton, en une nuit, avait refleuri et avait fait des amandes. Et donc, on avait gardé ça comme témoignage dans l'arche. Il y avait aussi les tables de la loi qui étaient dans l'arche. Et puis là, il y avait également un vase. Dieu avait dit, tu mettras un vase avec rempli de la manne. Et ce sera là aussi un souvenir du fait que j'étais avec vous dans le désert pendant tout ce périple. Cet enseignement est tellement important qu'il y a une lettre entière dans le Nouveau Testament, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, qui nous parle de ça. C'est la lettre aux Hébreux. Si vous avez votre Bible, on va lire dans Hébreux 9. Dans Hébreux 9, à partir du verset 1. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. » Alors, si vous remarquez là, est-ce que quelqu'un a suivi, est-ce que quelqu'un a vu une anomalie ? Non ? Non, le bâton, il est dans l'arche, donc non ? Voilà. Il y en a une qui est attentive. C'est l'instit, elle a l'habitude. L'Exode nous dit que l'autel des parfums était devant le voile à l'entrée du Saint des Saints. Et le Nouveau Testament nous dit que l'autel des parfums était dans le Saint des Saints. Il y a une contradiction. Donc soit l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'est trompé, mais les commentateurs disent en fait non. C'est que les pains et le chandelier étaient en face l'un de l'autre, et l'autel des parfums était vraiment tout contre le voile. Et en fait, les sacrificateurs qui officiaient dans le lieu saint, eh ben, ils s'occupaient toujours des lampes, de ci, de ça, etc. Mais ils ne passaient de l'autre côté du voile, eux, jamais. C'était que le souverain sacrificateur et une fois par an. Et donc, c'est comme si cet autel des parfums était presque déjà de l'autre. On ne le passait qu'une fois par an pour entrer dans le lieu très saint. Donc, c'est un petit peu l'interprétation. Mais c'est intéressant. Donc se trouvait l'autel des parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. C'est le couvercle qu'il y avait sur la boîte, sur l'arche. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le Saint des Saints, le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une image pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, hein, toute la cacheroute, tout ce qui est cachère, etc., étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai aussi. Et donc, l'Épître aux Hébreux, elle va s'emparer de cette image, de cet enseignement du sacrificateur et du sanctuaire pour nous parler du rôle de Jésus, qui offre le sacrifice unique et définitif et qui entre avec son propre sang. Parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque? Donc, j'ai remis le sacrificateur, le souverain sacrificateur. En fait, le souverain sacrificateur, une fois par an, il venait avec le sang. Et vous avez vu tout à l'heure l'arche avec les chérubins et le couvercle. Eh bien, il versait le sang une fois par an sur le couvercle. Et c'était, s'il ressortait vivant, c'était que Dieu avait pardonné les péchés du peuple. Et s'il ressortait pas vivant, ben, ça, je crois que c'est jamais arrivé, mais ça aurait pu. C'était l'angoisse du peuple que le souverain sacrificateur qui entre dans la présence de Dieu ne ressorte pas si Dieu avait décidé de ne pas pardonner les péchés. Et le peuple, Dieu avait anticipé les angoisses du peuple vis-à-vis du souverain sacrificateur, c'est qu'au bord du vêtement, là, au bord de la robe, il y avait des petites clochettes. Donc, tant que les sacrificateurs et donc le peuple derrière entendaient les petites clochettes, il se disait, bon, c'est bon, il marche encore, il respire encore, il bouge encore. Et s'il n'y avait plus le bruit des clochettes, là, il commençait à s'angoisser. Donc, j'imagine qu'il ne fallait pas, il disait toujours au souverain sacrificateur, ça c'est moi qui rajoute, hein, ne t'arrête pas de marcher, hein, bouge, hein, bouge qu'on entende les clochettes. Et quand il apparaissait, qu'il sortait, waouh, c'était glorieux, c'était que Dieu avait pardonné les péchés de toute une année. C'était le jour du grand pardon. Hébreux 10 nous dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est établi sur la maison de Dieu. Et c'est Jésus. Et il nous est dit aussi dans Hébreux 10 toujours qu'une route nouvelle et vivante a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisqu'au moment de la crucifixion, spirituellement, c'est comme si Jésus était entré dans le temple, dans le tabernacle, dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint, pour officier, non pas avec le sang des boucs et des vaches, mais avec son propre sang. Et si vous connaissez l'évangile, vous vous souvenez qu'au moment où Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le fameux voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Quelle coïncidence. Et donc l'Épître aux Hébreux nous dit non, une route nouvelle a été ouverte pour nous. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je remets cette diapo de l'arche. Donc c'était ce fameux coffre qui n'était pas très grand, hein, et avec le couvercle. Et puis il y avait des chérubins qui étaient là. Et les chérubins avaient les ailes tournées vers ce centre du propitiatoire. Et c'était à cet endroit, j'allais dire, le lieu le plus saint. Sans doute là d'où partait la colonne de feu et d'où partait, où arrivait la nuée. C'était là qu'une fois par an, le souverain sacrificateur allait verser le sang. Et les chérubins, c'est des anges très importants, de grandes, dans la hiérarchie des anges, c'est vraiment parmi le sommet. Et c'est ces anges, notamment les chérubins, on les retrouve à plusieurs moments dans la Bible, mais notamment, vous vous souvenez, quand Adam et Ève ont péché, qu'ils sont chassés du jardin, il est dit que Dieu place des chérubins pour interdire à l'homme et à la femme l'entrée du jardin. Et donc les chérubins sont là, l'image de la porte un petit peu. C'est eux qui gardent l'entrée. Mais quand le sang est là, à ce moment-là, on peut de nouveau entrer. Et le texte nous dit à deux reprises que le visage, la face des chérubins était tournée vers le propitiatoire. C'est comme si ces anges de très haut niveau, comme si le ciel, finalement, avait les yeux fixés sur le propitiatoire. Vous rendez compte, la terre et le ciel ont les yeux fixés sur le propitiatoire. La terre et le ciel ont les yeux fixés sur Jésus, sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est le chemin vers le lieu très saint pour nous. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Ce qu'on voit là, c'était une imitation de ce qui est dans le ciel, des réalités spirituelles. Mais lui, Jésus, est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et en Jean 14, 6, Jésus va dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Jésus est descendu, Jésus est remonté. De la même façon que le sanctuaire, le modèle était là, et on a fabriqué le sanctuaire. Et dans la description du sanctuaire, c'est comme si ça descendait du ciel. Parce que quand Moïse décrit le sanctuaire et dit de faire le sanctuaire, il commence par le cœur, il commence par l'arche, puis le lieu très saint, puis le lieu saint, puis ça s'est élargi. Comme si ça venait d'en haut et que ça coulait comme ça. Et puis Jésus a fait ce chemin aussi, il est descendu. Mais il est aussi remonté par le même chemin. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous a entraînés avec lui. Et c'est ce qui permet qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. J'avais envie ce matin de nous remémorer toutes ces choses pour que on puisse vraiment, pour certains c'est nouveau, pour d'autres c'est juste un rappel de quelque chose qu'on connaît bien, mais qui est tellement important. Dieu veut être au milieu de son peuple. On avait mis le tabernacle au cœur du peuple. Quand on se réunit, pensons toujours, 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 qu'on ne vient pas d'abord pour nous, on vient d'abord pour lui. Il est au cœur. Et il vient pour nous rencontrer. On va s'arrêter là. Je voudrais vous inviter juste à vous lever, si vous avez, voilà, si vous n'êtes pas trop fatigué, ceux qui sont fatigués peuvent rester assis. Mais je voulais vous inviter simplement à méditer un instant dans le silence sur la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il n'y a pas de lieu plus saint sur terre que l'Église. Même si vous allez à Jérusalem, j'y suis allé, tout ça n'existe plus. C'était l'image des choses à venir. La réalité est en Christ. Il n'y a pas de lieu plus saint qu'au milieu de nous, que l'Église. C'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où on peut rencontrer notre Père. C'est le lieu où ce Dieu tellement lointain, tellement fort, qui pourrait tellement nous faire peur, est devenu un papa d'amour. Seigneur. Je veux vraiment t'inviter au milieu de nous à prendre toute ta place dans l'Église. Seigneur, nous voulons chérir et nous les chérissons, mais nous voulons les chérir encore plus ces moments que nous passons dans ta présence. C'est notre place, Seigneur. C'est notre place dans ta maison. Le Seigneur me rappelle que quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, dans la tente, Josué venait avec lui et Moïse ressortait, mais Josué y restait. C'était un gourmand de la présence de Dieu. Et Seigneur, je te prie que nous puissions toujours et encore plus être gourmands de ta présence, de vivre ces moments d'intimité avec toi. Seigneur, merci pour ce tabernacle. Merci pour le temple qui nous parle tellement bien de toi, Seigneur. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour nous donner accès à un lieu qui nous était interdit. Merci parce que nous pouvons entrer dans ta présence et survivre. Et non seulement survivre, mais vivre dans l'abondance. Merci Jésus pour ta grâce. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On peut allumer. Je voudrais vraiment nous rappeler que c'est important quand on est en groupe de maison de valoriser la présence de Dieu. Quand on est dans le culte, valoriser la présence de Dieu. Quand on a des moments spéciaux en église, des réunions de jeûne, de prière, des nuits, valoriser en priorité la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. Bon dimanche. Et ben pour ceux qui restent, on mange ensemble. Pour ceux qui veulent revenir, venez dès que vous êtes dispo tout à l'heure. Et puis on va bricoler, on va faire tout un tas de choses. Comme je disais, il y a des gros travaux réservés aux hommes forts, aux femmes fortes. Et puis il y a des petites choses aussi pour ceux qui sont un peu plus, comment on dit, freluqués. Je ne sais pas si c'est français, mais bon. En tout cas, soyez bénis et puis à dimanche.